France Bleu RCFM. France Bleu.
Qui est là?
Hal.
Hal qui?
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Top Top.
Et à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Toc Toc. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. Mon invité, Paul Tourqui-Douriagne, vient de faire paraître Statut particulier, un recueil de textes qui ont été écrits sur 10 années, publiés sur Facebook et qui se retrouvent dans un livre publié chez Réalita.
Toc Toc !
Bonsoir Paul.
Bonsoir Marie.
Quel plaisir de vous accueillir avec cet opus que j'ai entre les mains, Statut particulier. Alors statut évidemment pour les statuts Facebook sur les réseaux sociaux et statut particulier pour la Corse. Un joli jeu de mots que vous avez trouvé, qu'on vous a suggéré.
Que j'ai trouvé, tout simplement.
Comme un grand.
Voilà. Je disais, bon, il faut publier les statuts. On me disait, il faut publier les statuts, il faut faire un recueil. Je dis, ouais, mais enfin, ils sont quand même particuliers, certains. On dit, ah oui, bah, il faut quand même publier. Et voilà, de fil en aiguille, statut particulier.
Donc, depuis une dizaine d'années, on vous suit sur les réseaux.
Oui.
Celles et ceux qui sont amis, qui font partie de votre communauté, dont je fais partie. Je pensais avoir quasiment tout lu, mais en réalité, pas du tout. Et il y a eu une question, un jour, en message privé. Pourquoi tu mets tout ça sur Facebook?
C'est ça.
Alors, évidemment, vous taquinez la forme, qui est mauvaise, mais vous dites, le fond est pertinent, et ça vous a interrogé.
C'est ça. Ben, on connaît le côté chronophage des réseaux sociaux. Bon, essentiellement au niveau de la jeunesse, on s'en plaint souvent, les yeux fixés dans les portables. Alors, essentiellement la jeunesse sur ce qui transmet de l'image. Hein, on va pas les citer là, mais on sait que sur Facebook, qui est en l'occurrence celui que j'emploie comme un outil, ils n'y vont plus parce qu'il y a trop à lire. Et effectivement, quand on m'a posé cette question, je me suis dit...
C'est plus le réseau des jeunes, hein,
Facebook. Non, c'est plus le réseau des jeunes. Non, sur les réseaux des jeunes, on est plus sur les trucs qui tiennent en deux mots.
Snap,
plutôt
Instagram,
les images, voilà. Les images éphémères, les petites vidéos, etc. Parce que le message est plus rapidement assimilé. Et Facebook, donc, est délaissé. Et moi, je me disais, mais attends, tu es comme les jeunes de 16 ans. Tu vis sur Facebook. Et en fait, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, en fait, Facebook, l'utilisation de certains réseaux sociaux... Ça me permettait aussi, non seulement de m'exprimer de manière un peu publique, ça me permettait de partager, comme le propose aussi le réseau social, et ça me permettait surtout parfois, en réfléchissant, en réagissant un peu, d'échapper à l'endroit ou à la situation où je me trouve, c'est une forme d'échappatoire aussi.
Donc, il y a une chose intéressante dans ce que vous venez de dire, c'est ça me donnait ou ça me donne la possibilité de m'exprimer. C'était le cas des forums où tout le monde pouvait s'exprimer, échanger. Ben oui.
Caramel et tout.
Et paraît-il que c'est un bienfait terrible pour le cerveau humain et pour le bien-être. Sauf que c'est aussi la poubelle, Facebook.
C'est la poubelle. Mais vous savez, c'est comme tous les outils. Un couteau, malheureusement, on le voit avec l'actualité, ça peut servir à couper du pain et à donner à manger, comme ça peut servir aussi à tuer quelqu'un. Donc un outil, c'est toujours une arme, une possibilité d'une arme. Et le réseau social, le numérique en général, je pense que c'est comme le reste, c'est l'utilisation qu'on en a, c'est la pédagogie avec laquelle on l'utilise, et à un moment donné, c'est ce qu'on y propose. Et on ne peut pas se contenter d'être toujours soumis à la demande, il faut aussi produire l'offre. Alors je ne sais pas si à mon humble niveau, j'ai produit une offre, mais en tout cas, j'ai suscité des réactions et des échanges, et parfois, ça a donné lieu à de belles choses.
Non, mais du coup, ça ne s'arrête plus, parce qu'une fois que vous publiez votre texte, votre réaction, votre sentiment, ou même parfois une critique de livre ou de cinéma, il y a derrière des réactions, il faut y répondre.
Alors, oui.
Et on tombe sur tout.
Voilà, il y a de tout. Alors, il faut savoir, là aussi, faire le tri. Il faut savoir aussi partager, il faut savoir parfois se mettre à un autre niveau, qu'il soit plus bas, plus élevé, le même, peu importe. Et puis, il faut savoir surtout partager. Moi, je considère qu'il y a, à part les idées dangereuses, vraiment très dangereuses, qui ont une application maléfique, on dira, dans la vie concrète, pour le reste, on peut tout partager en termes d'idées, et en termes de dialogue, on peut tout se dire. Mais il faut avoir cette volonté d'accepter ce que l'autre a à nous dire. Être dans le dialogue, c'est pas être dans le double monologue. C'est-à-dire, c'est pas deux personnes qui disent chacun leur sentiment. Moi, j'aime l'eau chaude, toi, tu aimes l'eau froide. L'autre qui dit, moi, j'aime l'eau froide. Et là, moi, voilà, c'est ce que j'essaie de faire. J'apprends beaucoup de beaucoup de personnes.
Vous bloquez certaines personnes?
Ça m'est arrivé, ouais. Ça m'est arrivé.
Les propos sont trop nauséabonds, par exemple, ou...
Si les propos sont trop nauséabonds, en général, ce que je fais, c'est que je supprime. Et ensuite, j'ai une discussion en off avec l'intéressé. je bloque essentiellement les personnes qui, entre guillemets, réagissent jamais ou qui sont là, on le sait, parfois, pour jeter un œil un peu indiscret à toutes les choses ou
un peu voyeur.
Ou les utiliser, bien sûr. Mais il y a une part d'exhibitionnisme et de voyeurisme dans les réseaux sociaux. Voilà, moi j'assume mon exhibitionnisme, après je n'assume pas le voyeurisme des autres.
Mais d'où vient ce besoin d'échanger absolument avec les autres?
Alors aujourd'hui, bon, en Corse on parle souvent des valeurs, et bon, je suis pas très
d'accord. C'est le café du commerce ou c'est l'agora?
Ben c'est un peu, alors l'agora c'est un peu plus politisé, mais je dirais que c'est le café du commerce où on croise plus de philosophes que souvent dans les salons parisiens. Donc moi ce besoin d'extérioriser, je l'ai tout le temps, je l'ai dans ma vie de tous les jours, dans mes implications associatives ou dans les projets auxquels je participe. Et dans ce que je fais, j'essaie toujours de faire en sorte que les gens puissent amener quelque chose et que moi je puisse amener quelque chose aux gens. Et là, pour le coup, Facebook, ça me paraissait être un bon outil parce que effectivement, il y a cette capacité de rédiger qui n'est pas forcément présente sur les autres. Et en même temps, dans une société où il y a beaucoup d'individualisme et où les réseaux sociaux participent à cet individualisme forcené, où c'est le chacun pour soi et plus de Dieu pour tous, moi, j'ai considéré qu'à un moment donné, il fallait transformer cet outil d'individualisme en outil de spartir.
Paul Tourquidouriani, vous intervenez au sein de Pradigalingua, des ateliers d'histoire de la Corse, en langue corse.
Tout à fait aussi.
On peut retrouver dans ce statut particulier quelques extraits en langue corse, mais principalement vous exprimez en français, puisque c'est le cas sur Facebook. Et lorsque vous écrivez en corse, souvent, cela devient des chansons.
C'est ça.
Notamment pour Doria. Et en voici une qui est extraite de Rabia. Et j'aimerais vraiment que vous la présentiez, mais de façon très très classe, à la Marc-Andrea Castellane.
Oh malheur.
Tout simplement parce que vous ne pouvez pas savoir comment vous avez fait rager ce garçon.
Ah bon?
D'une part parce que vous avez ressorti cette histoire dans Fiume et qu'il rêvait d'écrire une chanson là-dessus, qu'il rêvait qu'on en parle, et que le plus grand nombre des Corses connaissent cette histoire malheureusement oubliée, puisque les Corses connaissent mal leur histoire.
Voilà.
Donc rappelez-nous le contexte et l'histoire de cette chanson.
Alors en fait, on est la même année que Ponteno, ou un peu plus tard.
Comme Marc-Andrea Castellane.
Allô, il me faut une guitare. Bon, je sais pas jouer, on va écorcher les oreilles de tout le monde.
Et l'enthousiasme. Oui.
Thomas qui est là, bonsoir, peut-être. Voilà. Allô, Bagabarla, Dianazione Gorsa. Voilà. Ai Tempilandani. Non, en fait, pour faire une présentation succincte de la chanson, moi j'aime l'histoire, j'aime la partager, comme je le disais avant, et j'aime surtout partager les morceaux qui sont oubliés. Et c'est vrai que Ponteno, de par sa célébration, sa manifestation actuelle, moderne et contemporaine, elle occulte toute une autre partie de l'histoire. Et la dernière bataille de la nation corse, en fait, de la République de Corse, c'est celle du Fiume Vecchio, qui est sous le pont Eiffel à l'heure actuelle, en contrebas, tout en bas. Et en fait, c'est un peu notre Thermopyle à nous, c'est-à-dire que quelques centaines de Corses, alors pour la légende, on a dit contre 10 000 Français, 600 Corses, bon, on n'est pas tout à fait sur ces chiffres-là en réalité, mais ont décidé de se sacrifier pour protéger l'exil.
Pour que Pascal Paoli
puisse partir. Puisse s'enfuir. Et donc, ils se sont sacrifiés, quelque part, en tenant la rive comme une muraille humaine pour empêcher les troupes de passer. Alors, bien évidemment, elles n'ont fait que les ralentir quelque peu. Il n'y avait pas non plus forcément une farouche volonté de la France, du Royaume de France, d'attraper Pascal Paoli. Même dire qu'ils ont quelque part facilité un peu sa fuite. Son exil, mais voilà, donc je voulais raconter ça comme dans d'autres chansons, dans d'autres textes, je veux partager ces morceaux d'histoire qu'on occulte souvent.
Mais en tous les cas, plusieurs centaines d'hommes sont tombés.
Oui, plusieurs centaines d'hommes, d'enfants, certainement de très jeunes hommes, peut-être même de femmes, sont tombés, et c'est vrai que bon, on les a un petit peu oubliés. C'est un peu aussi la différence qu'il y a entre l'histoire et la mémoire, j'en parle souvent justement sur Facebook. On est beaucoup dans la commémoration, c'est-à-dire qu'on se souvient tous ensemble. Et parfois, il faut revenir un peu à l'histoire. Et comme ces traditions qui ont été peu ou mal écrites, en Corse, on a trouvé le moyen de la musique et de la chanson pour transmettre ces pans que l'on connaît peu ou mal.
Paul Tourquidouriani, notre invité, jusqu'à 18h, il présente son livre « Statut particulier ».
Sopra quello fiume, non dall'onda di Uvecchio, tamanta battaglia, tamanto spaveggio, l'acqua è tornata sangue, rosso e lo spiegio. 600 patrioti contro 10.000 francesi, il coraggio avete dagli fuochi accesi d'un'antica razza, d'un popolo così greggio. Hanno rotto il ponte, hanno rotto il ponte.
Fiumeechu, donc Doria, sur RCFM, une chanson écrite par Paul Tourkidoyan, notre invité, et qui figure donc sur Rabia. Et puis je sais que vous allez suivre ce soir entre 20h et 21h l'intégralité du cabaret de Doria, qui a été enregistré la semaine dernière, jeudi dernier. Michael Andreani, bonsoir.
Bonsoir Marie, bonsoir Paul et bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Salut Domico.
Mais qu'il est bien élevé ce garçon, ce soir encore, plus que d'habitude. Hein. Statut particulier vous a inspiré?
Oui, effectivement. Ça m'a inspiré de le fait de me pencher sur des romans, peut-être d'un nouveau genre, en tout cas aux techniques assez originales. Et d'ailleurs, on peut se poser cette question hein, avec l'émergence d'un roman de nouveau genre. Est-ce qu'on assiste effectivement à une éclosion de choses assez nouvelles? J'en veux pour preuve peut-être un premier roman, celui d'Alban Orsini. Il est paru aux éditions Chifflet et compagnie. Il s'intitule « Avec maman ». Il s'agit en fait d'une fiction qui trace l'histoire de maman et de son fiston au fil de leurs échanges par SMS. Alors, il faut savoir qu'à la base,
ça a été vendu à je ne sais combien de milliers d'exemplaires.
Gros succès. Gros succès.
On devrait tous faire ça.
Tizari Arroba. Alors, il faut savoir qu'à la base, l'auteur publiait chaque jour sur son blog, Septième et Respond, par texto. Ça a d'ailleurs tenu durant de longs mois de nombreux internautes en haleine. Et face au succès rencontré sur le web, Alban Orsini a décidé de franchir le pas de la publication d'un roman à part entière. Autre exemple dans la même veine, avec la jeune romancière américaine de 30 ans, Anna Todd, qui a publié la suite romanesque After. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un roman à l'eau de rose, en fait, que l'auteur a écrit sur son smartphone
Moi,
via
Wattpad. Moi, je connais, j'ai vu un reportage.
Ah bon Wattpad, c'est un site social d'accès libre. Là là. Où les usagers inscrits peuvent écrire et partager gratuitement leur récit littéraire, hein, tout simplement.
Non, le récit, je réponds, pardon, à Paul, le récit, je ne l'ai pas lu, donc il n'est pas forcément bien. C'est le récit d'une jeune fille, d'une jeune adolescente d'un roman à l'eau de rose. Mais si vous voulez, ça a tellement bien fonctionné via Wattpad, puisque tout le monde peut écrire. Non, c'est qu'elle n'a plus cessé et elle doit produire comme une malade. Elle n'a plus de vie, cette adolescente. C'est ce qui vous arrive.
C'est ça, c'est ce qui. Voilà, ça va.
Alors. Au bout de quelques mois, effectivement, le carton est total, avec une histoire suivie quotidiennement par des dizaines de milliers d'internautes. Téléchargée, écoutez bien, 1 milliard de fois, le roman paraît quelques mois plus tard en librairie et devient un best-seller dans le monde entier, publié dans une trentaine de langues différentes et devenu numéro 1 des ventes en France, en Allemagne, en Italie ou encore en Espagne. Et puis, dernier exemple, le roman Courrier de Berlin de Matthias Tschokke, c'est un écrivain suisse. On se trouve là devant une longue série d'emails, 1500, que l'écrivain a envoyé à son meilleur ami. Alors lui, le livre, il s'étend sur 7 ans exactement, 7 années qui voient les jours s'égrener, les voyages se multiplier, tout comme les sorties, les lectures, les rires, les réflexions, bref, la vie, simplement, qui se dévoile au gré des courriels dans ce roman qui a très bien marché, là aussi, et que l'on pourrait qualifier, si on s'y attarde un peu, d'essai sur la culture d'aujourd'hui et ses fabricants. Alors, puisse, statut particulier de Paul Tourkidoyan, avec cette technique inédite, donc, autour des posts Facebook, atteindre les sommets de likes, de partages et de commentaires en librairie, et pas seulement sur la toile.
Si j'atteins le milliard, je promets à tout le monde, j'arrête d'écrire.
Merci, Michael André. Alors, on a d'autres exemples parce que, évidemment, que les publications d'échanges épistolaires sont vieux comme le monde. Mais en revanche, il y avait aussi Marie Ferranti et Jean-Guy Talamogne.
Bien sûr, oui.
Hein, qui ont publié leur courriel.
Leurs échanges.
Leurs échanges sur quelques années.
Voilà.
Il y en a d'autres qui vous viennent à l'esprit?
Ah ben on en parlait tout à l'heure, Guy Carlier qui avait...
Mais ils ne le savent pas, les auditeurs.
Ah oui, voilà, on va lui dire aux auditeurs, chers auditeurs, Guy Carlier qui était chroniqueur sur je ne sais plus quelle chaîne, qui avait publié effectivement ses interventions radio, ses billets d'humeur, et qui avait appelé ça « Je vous amène mes radios ».
Ouais.
Et voilà, j'ai pas eu ces démarches-là à l'esprit quand je l'ai fait. En fait, moi j'ai toujours écrit de manière gratuite et publique sur Facebook, et puis... on a commencé à me dire, publie-les. Bon, et puis un jour, c'est Doria qui a eu le mot de la fin. Elle a dit, mais on va les publier. Et donc, choisis et prends. Alors, la différence, bien évidemment, avec, par exemple, le livre de Marie Ferranti et de Jean-Guy Talamogne, c'est que...
C'est que vous êtes seul, là, déjà.
Je suis tout seul, Marie. Ils m'ont tous abandonné. Alors, j'ai pas mis les commentaires dans le bouquin, justement. Mais voilà, mais c'est plus moi qui propose quelque chose. Je propose quelque chose. Et après, il faut aller voir sur Facebook les réactions des gens, etc. Mais dans cet ordre d'idée-là, je suis tout seul.
10 ans de statut Facebook que vous avez publié, et du coup, lorsqu'on les retrouve réunis dans un livre, au lieu de faire figure d'éphéméride, comme ça pouvait être le cas sur Facebook, là on a l'impression d'avoir un petit almanach de la vie de Paul Tourquidouriani, qui se passe en Corse, qui se passe précisément à Bastia. C'est égrené aussi par nos fêtes païennes et religieuses, et ça je trouve ça formidable. Bon, vous êtes confrère, ça n'est pas un secret.
Saint-Agros de Bastille.
Et du coup, vous exprimez...
Combien me pardonner, je vais louper la messe ce soir.
Mais du coup, vous exprimez très librement.
Oui, je m'exprime très librement. Bon, déjà parce que j'ai pas de carcan ni politique, ni sociaux, etc. Et ensuite, je considère que si on va se publier soi-même, c'est-à-dire se rendre public, à un moment donné, il faut aussi partager ce que l'on est véritablement sans jouer de rôle. Et je suis.
Vous n'avez jamais la trouille.
De ma mère.
Essentiellement. Voilà. Elles
vous savez comment elles sont.
Elles reviennent, les fameuses.
Beau, c'est... Voilà.
Non, c'est vrai.
Ouais, souvent. D'ailleurs, je me fais lancer, mais, mais voilà. Mais non, j'ai jamais peur parce que déjà, si j'étais uniquement un personnage virtuel comme certains, je pourrais dire, bon, je suis dans une espèce de fantasme de délire, mais bon, j'ai assez d'activité et de vie concrète et réelle et d'implication pour faire en sorte que ben on puisse aussi me dire dans la rue, bon, ce que tu as écrit ça m'a plu ou ça m'a pas plu, etc. On sait qu'il y a un prolongement, que je suis pas juste un personnage, donc souvent ça évite d'être un défouloir ou d'être encensé, porté au nu.
Et puis j'ai l'impression que cela a permis, en tout cas dans notre communauté évidemment, d'oser prendre la plume à certains.
C'est ça. Ben je pense que par référence.
Je pense à un certain Paulouch, par exemple.
Paulouch B2C.
Voilà. Non, mais c'est vrai.
Si tu nous entends,
non,
Polo, c'est pour toi.
Mais certains qui n'osent pas, vous leur permettez de prendre la plume.
Mais moi, souvent, en l'occurrence, parce que je publiais celui-là, on m'a dit, bon, tu sais que moi aussi j'écris. Ouais. Puis j'ai des amis qui disaient beaucoup, qui me disaient, bah, j'écris des trucs. Ouais. Franchement, tu as bien fait de les sortir. Il dit, mais moi, j'ose pas. Et moi, ce que j'aime, ce que je veux, c'est lire des gens. Lire ces gens. Je veux à tout prix les lire parce qu'ils ont tous quelque chose à dire, ils ont tous une manière de les dire, et ils vont s'enrichir d'être lus, et moi je vais m'enrichir de les lire. Un peu égoïstement aussi, faut le dire.
Eh oui.
Mais je les encourage vivement, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, peu importe le moyen et le média, à se faire lire par les gens, parce que faut se confronter, faut être un peu courageux aussi. Faut être un peu courageux, un peu dingue. Mais il faut se lancer parce que ça peut ouvrir une porte, ça peut en fermer une autre. Peut-être que j'écrirai plus jamais rien après statut particulier, tant pis. Mais à un moment donné, il a fallu franchir le pas. Comme la première fois qu'on m'a demandé une chanson, j'ai dit, on se met qu'à scriver une chanson. On m'a dit, pro. Comme Lisandro des Herbes était venu me trouver pour Pradigali, moi me disant, il y en a un, tu as telo d'historia. Il a dit, perché me? Perché io? M'a dit, perché mi? À un moment donné, c'est ce que je dis aux gens, perché mi? Il faut se lancer. Quand on sait faire, quand on veut faire quelque chose, on va apprendre à le faire mieux, on va se prendre des râteaux, on va se ramasser mille fois, on va tomber sur des imbéciles.
Mais il faut y trouver quand même du plaisir intellectuel.
Ouais. Oui. Ben, il faut
sinon, ça n'a pas d'intérêt.
Il faut douter de soi-même en permanence. Alors, je ne vais pas faire le philosophe de 18 heures. Alors. Mais il y a un moment donné...
C'est souvent ce qu'on fait.
Non, mais vous le faites. Alors déjà, avec talent, et vous êtes plus dans la poésie, Marie.
Oui.
Non, mais voilà, il faut à un moment donné se remettre en question, se remettre en cause, accepter ce qu'on prend dans la gueule. Ça fait partie du jeu. L'important, c'est pas la destination, c'est le chemin. Et donc, il faut se lancer, produire, faire, se ramasser, se tromper, reprendre les trucs, les revoir 100 fois. Et puis, à un moment donné, dire c'est bon. Il faut le sortir.
Les mots sont des armes. Vous citez d'ailleurs Léo Ferré. Mmh. Des armes au secret des jours, sous l'herbe, dans le ciel, et puis dans l'écriture. Des qui vous font rêver très tard dans les lectures et qui mettent la poésie dans les discours.
Ouais.
Voilà, donc il faut le prendre ainsi.
Ouais.
Il faut peser ces mots pour un homme qui ne se relie jamais. C'est hyper dangereux.
C'est très dangereux.
Non, pourquoi vous ne vous relisez pas?
Je ne supporte pas. Je supporte pas de me relire parce que déjà quand je me relis, je trouve un paquet d'autres choses à rajouter. Et après, bon, déjà il y a des statues, vous l'avez vu, qui font quand même une certaine taille.
Oui.
Ensuite, quand je me relis, je me dis pourquoi tu le fais. Et souvent, c'est comme quand on est à Sagres, vous savez, dans le Cap, et que
on va
sauter et qu'on se dit mais pourquoi tu vas sauter? Tu peux descendre par les rochers sur le côté. Et finalement, on saute. Faut pas trop réfléchir. Faut le faire. Et si je me relis, ben souvent je ne vais pas le faire ou. où je vais rajouter les choses, ça va être modifié, tout. Je préfère la spontanéité.
Le propre d'un auteur, c'est de mettre en exergue nos souvenirs à toutes et tous avec les bons mots, certains qu'on a oubliés. C'est ce que vous faites dans ce livre, réellement. Mmh. Et c'est ce que vous faites sur Facebook. Dernièrement, vous aviez écrit un très joli texte sur Bastiat.
Ouais.
Mais ça a généré moult commentaires.
Absolument.
Et souvenirs de gens. Mais on a senti, ouais, toute l'enfance qui remontait à la surface.
Eh, c'est ça, hein, toute l'enfance, la jeunesse, nos baraques à sandwich sur la place, la fontaine des Jésuites, la rue droite, les parties de foot. Voilà, les Saint-Joseph avec la crème à raser, les œufs.
Le Saint-Honoré, le magasin de jouets de monsieur et madame Lucas.
J'en ai acheté des saletés là-dedans. Je pense que j'ai dû ruiner un peu ma mère, justement. Mais voilà, moi, en fait, ce qui partait de là, c'est que j'entendais Bastiat, j'aime Bastiat par passion, par amour, par joie, par félicité, par tout ce que vous voulez, par A plus B. Et au final, j'ai dit, mais oui, il y a un moment là, qu'est-ce que Bastiat? Permet Bastiat de créer. Voilà, ouais. Bastiat, c'est les gosses sur la place, avec la petite voiturette qui vend des ballons, c'est l'odeur des sandwichs, c'est tout ça, c'est le vieux lycée, ses profs, ses couloirs. Et à un moment donné, j'ai voulu le dire aux gens. Et ce qui est vraiment significatif, vous avez très bien fait de prendre ce statut en exemple, c'est que derrière, tout le monde avait ses souvenirs.
Ah, c'est
tous
énorme.
Les Bastiais s'y sont mis. Et certains d'Ajaccio, hein, Oyente, nous ont dit, bon, on y est presque à Bastia, alors on a presque envie d'être Bastiais. Il n'y en a pas presque, vous avez envie, dites-le, avouez maintenant.
Est-ce que le goût de l'écriture vous vient de George Orwell et de 1984? Parce que moi, je mélange le goût de l'écriture et le goût de la lecture, ça va ensemble.
Ben, c'est pareil. En fait, je vais vous dire sincèrement...
Il y a un très joli statut d'ailleurs à ce sujet.
C'est ça. Et oui, parce que en fait, j'ai toujours baigné dans les livres, j'ai lu très tôt beaucoup, j'ai fait un rejet de la littérature aussi, et puis j'y suis revenu, et puis j'accumule des livres jusqu'à en faire des colonnes à la maison. Et puis, à un moment donné, lire, ça suffisait plus. Et j'avais envie de parler de ces gens que je lisais, qui m'avaient marqué. Alors souvent, moi, je suis pas un intellectuel, au sens académique, ce genre de choses, enfin bon, au sens très large. Moi, je suis quelqu'un qui aime réfléchir parce qu'il ressent. Et le sentiment, la réaction, se couple avec la réflexion. Et George Orwell, ça m'a marqué parce que quand j'étais gosse, j'avais acheté le livre au supermarché, parce que ma mère me laissait dans le rayon des bouquins, et puis elle me récupérait à la fin des courses. Et tout ça, ça m'a marqué. J'avais envie d'en parler aussi, des George Orwell, de Montecristo, d'Alexandre Dumas, de Victor Hugo parfois, ou d'autres auteurs, ou d'autres films. Et j'en ai tellement mangé, je les aime tellement parce que...
Edmond Dantès, il en parle aussi.
Il en parle aussi
dans Statut particulier.
Et j'ai voulu y rendre. J'ai voulu rendre ce qu'il m'avait donné, et j'ai voulu le partager avec les autres pour être toujours dans cette même logique.
Est-ce que les livres vous ont donné,
ouais,
et le rendre,
exactement,
ici dans Statut particulier? Et alors là, je vous dis pas les souvenirs que ça évoque pour vous, pour nous lecteurs. Il y a aussi, vous parliez de statut non politique,
ouais,
mais il y en a quand même qui sont assez engagés.
Non, engagé, non. Enfin, peut-être que je l'ai été, effectivement, et je l'ai été à une époque.
Engagé culturellement, vous préférez ?
Je pense que, voilà, je préfère la culture. Je crois que j'ai fait le tour de beaucoup de choses. Peut-être pas, peut-être que j'ai loupé certaines autres choses, mais je reste fermement convaincu qu'à un moment donné, si c'est pas la culture qu'on sauve, avec tout ce qu'elle comporte, la langue, le patrimoine, etc., je pense qu'on va vers nulle part et vers rien. Parce que même si on s'en sort, même si la planète n'explose pas, parce que Greta l'a prédit, et bien à un moment donné, on va être quoi, des clones? On va être lisse, sans odeur, sans goût, et puis bon, voilà, c'est pas intéressant. Quel intérêt de sauver le monde si finalement on va tous ressembler comme l'armée des clones dans Star Wars? Donc, voilà, moi ça me tient à cœur, l'engagement culturel au sens large. C'est pas l'engagement culturel au service d'une politique ou d'un politique, c'est un engagement culturel en général. Moi j'aime découvrir le baroque espagnol, j'aime visiter les ruines à Rome, j'aime toutes les cultures du monde, essentiellement bien évidemment la nôtre, puisque méditerranéenne au sens large. Mais voilà, à un moment donné, il va falloir sauver la culture. Vous savez, j'en parle justement dans un statut, il y a cette fausse phrase de Winston Churchill qui n'a jamais existé. Voilà, j'ai été obligé de débunker le truc à un moment donné, parce que je la voyais sortir de partout, soi-disant pendant un conseiller qui serait venu lui dire, mais c'est seul. Il faudrait qu'on fasse une entame dans le budget de la culture, parce qu'il faut soutenir l'effort de guerre. Et il aurait répondu, ce qui n'est pas le cas, mais alors pourquoi nous battons-nous? Et ça, même si c'est faux, vous voyez, des fois, parfois, le fantasme ou la fiction peuvent devenir réalité. Moi, j'en ai fait un peu mon leitmotiv. C'est à chaque fois que je me pose la question, mais alors, pourquoi nous battons-nous?
Tout y passe, hein, la fête d'Halloween,
oui.
L'école de Prunet, l'affaire de l'école
le
de Prunet.
Et...
Ouais, je suis pas toujours d'accord avec vous d'ailleurs. Hein.
Mais c'est très bien.
Le Black Friday, les centres commerciaux.
Ouais.
Oh là là. Alors ça, les centres commerciaux, c'est quelque chose qui peut vous rendre complètement fou.
Ouais, ouais. Alors ça
surtout me... s'ils sont construits aux abords de ruines ou
ouais.
de vestiges archéologiques,
ouais,
ça vous rend dingue.
C'est ça, parce qu'à un moment donné, bon, je crois qu'on est la population, je vais pas dire en Europe, parce que j'ai pas les statistiques dans la tête, mais où il y a le plus grand nombre de centres commerciaux pour, par rapport au nombre d'habitants, jusqu'où on va aller. Il y a un moment donné jusqu'où on va aller. Est-ce qu'on va effectivement passer les bulldozers sur la Canonne pour faire un centre commercial X ou Y dessus? Je pense qu'on va y aller, hein, on y arrive et on l'a déjà fait, hein, plusieurs fois, hein, puisque quand on discute avec un archéologue très célèbre comme le professeur Philippe Pergola, on considère qu'il y a au moins sur la zone de Bastia 300 sites qui ont été ruinés pour construire des hangars. Moi, je peux pas ça. Ça, je peux pas. Il faut manger. Alors, encore une fois, moi, je prends le parti de tout le monde. C'est-à-dire que le centre commercial, même si ce sont des emplois précaires, etc., c'est aussi une manière pour les gens de travailler, de pouvoir subvenir à leurs besoins. On peut pas cracher sur les gens qui sont dedans ou les gens qui y vont. Moi, je peux pas m'y résoudre. Par contre, sur la logique globale du centre commercial, c'est pas possible. Les rats dans le labyrinthe, avec l'entrée, les promos, la sortie, le frais, les caisses, la musique, enfin, la soupe pour essayer un peu de nous mettre en état de conscience parallèle. C'est insupportable, ouvertement insupportable.
Il y a une chose où je ne suis pas vraiment d'accord avec vous, mais vous allez peut-être me l'expliquer, pas me
bien
convaincre, mais peut-être que je l'ai mal comprise, cette chose-là. Sur la quatrième de couve,
ouais.
qui en fait est un statut que l'on
oui.
retrouve dans le livre, vous écrivez « Un jour on inventera l'archéologie numérique, une manière de creuser le passé virtuel de l'humanité. Nos descendants, dans un futur lointain, ne feront pas de différence entre les slogans des pubs de merde avec une star has-been pour des cartes de crédit, les chaînes à la con pour un don de moelle à un enfant zèbre de Nouvelle-Angleterre, et les résultats de tests foireux couplés à des citations erronées maquillées sous peinte avec un cheval ou une bougie derrière. Outre le fait que vous vous amusez avec la langue et que
oui.
vous nous faites rire et que voilà, c'est sympa,
c'est
je suis pas d'accord parce que vous sous-entendez que nos arrière-petits-enfants deviendront complètement débiles et ce à cause de nous.
Et non.
Et je suis tellement à l'inverse de ça.
S'ils étaient tous complètement foireux, il n'y aurait pas d'archéologie numérique pour essayer de retrouver la vérité sous les filtres. Et il y a deux solutions. C'est où on va s'améliorer, où on ne va pas s'améliorer. Où on va s'en sortir, où on ne s'en sortira pas.
Ou ils dégonfleront les vessies, ou alors ils seront encore plus cons que nous, et là ça roulera.
Voilà, tout simplement. Où ils vont fracasser, où on arrive à un moment donné, vous savez, comme dans ces films de science-fiction,
ouais.
ce sont des gens qui n'ont plus de poils, plus de cheveux, qui flottent au-dessus du sol, qui lisent dans les esprits, etc. Bon, on ne peut pas aller jusque-là, mais... Où à un moment donné, on découvre que eh ben, il faut aller au-delà de l'apparence, au-delà de la surface, et de l'ostentatoire, et à ce moment-là revenir à la réalité, et au concret... Et à l'esprit, ou alors à un moment donné, ça va complètement s'effondrer. On va rester dans le symbole, dans le filtre à tête de panda, le maquillage, les 3 tonnes de maquillage par filtre de je ne sais quel Instagram, Snapchat ou quoi. Et à ce moment-là, ben, on sera dans la société du filtre à tous les niveaux. Et là, à ce moment-là, ouais.
Donc vous n'êtes pas un pessimiste?
Absolument pas. Je suis un cynique.
Voilà, comme de temps en temps, on vous
ouais.
dit.
C'est ça.
Vous êtes un AdZ.
Non, mais voilà. Ouais. Alors, l'AdZ, où moi, je prends le parti. D'ailleurs, j'ai mis la citation dans le Rose Beer, c'est d'entrée de jeu dans le livre, en hommage. Je considère que l'AdZ, où est un cynique, et que le cynique, c'est celui qui voit les choses comme elles sont, et non pas comme elles devraient être.
Grossier personnage, dont la vision déformée voit les choses comme elles sont, et non comme elles devraient être.
Exactement.
Ça, c'est vous?
Ça, c'est Ambrose Bierce.
Non, mais ça, c'est vous ou pas?
Ah ouais. Enfin, j'espère. J'essaye. Vous savez, j'ai une piètre opinion de moi-même, donc je ne sais pas si je réussis les choses. Mais j'espère en tout cas que le cynique, vous savez, le cynique, ça vient de sa même racine que le chien.
Que le chien, bien sûr.
Et c'est parce qu'en fait, le chien, ben, au sol, il a une autre vision que nous de l'humanité et des choses. Et moi, j'essaie d'avoir une autre vision sous un autre angle, des fois. Pour essayer de voir ben, si je la partage, si les gens la partagent, si ça provoque quelque chose, si... Les Marie Brondini ne sont pas d'accord avec moi, et c'est très bien. J'aime quand on n'est pas d'accord avec moi, je veux qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Mais voilà, moi je veux toujours qu'on attaque
Du coup, je suis d'accord avec une voix pareille.
Voilà, ouais, non. Je le savais.
Moi, je suis une fiote. Hein. Je suis une peureuse, moi, arrêtez.
Mais non, Marie-Anne.
Il y a un texte que j'aime beaucoup, le Réacquiste, où là, il y a la culture païenne, nos us et coutumes, et la religion qui sont mêlées.
C'est
et ce texte est absolument délicieux.
Ouais.
Et nous explique que tout cela est possible et qu'on vit très bien avec.
Ouais. Ben, vous savez, quand on commence à regarder un petit peu la culture Corse, effectivement, il faut savoir se séparer le mythe de la chose réelle et l'analyser un peu parfois avec un peu de recul et d'objectivité. Et moi, je vois des expressions qui sont suremployées dans tous les sens. La Corse, les racines chrétiennes, il n'y a aucun, aucune population, aucune nation, aucun peuple qui a des racines chrétiennes. Il y a effectivement le christianisme qui s'est greffé sur quelque chose de plus ancien, qui est arrivé jusqu'à nous, parce qu'il a trouvé un terreau fertile et favorable en Corse, même s'il a fallu des centaines et des centaines d'années pour qu'il s'implante durablement. Et je crois qu'à un moment donné, il faut détricoter tout notre fantasme de la Corse et de ses valeurs, de ses traditions, et essayer de voir qui on est réellement. Parce que le but, c'est ça, de pouvoir se regarder dans un miroir parce qu'on a un visage. Et pas parce qu'on a, encore une fois, un filtre de panda. Le peuple corse n'est pas un panda.
La saison n'a pas été bonne, pourtant il y a eu du monde. Quoi ? Comment ? Le chiffre d'affaires, il n'est pas bon. Il n'a grimpé que de 165% par rapport à l'année dernière. C'est la crise.
Ouais, c'est la grosse crise.
Vous reprenez nos tics et nos travers, ouais. Et ça vous le faites très bien. Il y a aussi quelque chose...
Je suis un très bon imitateur. Mais je ne ferai pas Valéry Giscard d'Estaing à l'antenne.
Vous êtes un très bon imitateur. Ouais. Des mots qui deviennent des bons mots dans votre bouche, ou en tout cas sous votre plume.
Bah, vous savez, c'est un peu colloquiste, je crois que c'est le mot qui est adapté. C'est sur le ton de la conversation. Des fois, on refait les gens, on se moque de nos travers. Et moi, j'aime prendre ça pour amener derrière une réflexion, parce que déjà, ça immerge. C'est de l'immersion pour le lecteur. Et en même temps, il y a une prise concrète. Quand on a une réflexion, quand on ouvre les journaux...
Pourquoi on en arrive là ? Pourquoi on prend nos jambes comme des knackis en photo sur la plage ? Ou pourquoi il y a ce statut « T'es mieux toi » à Clichy ? Ouais. Ça, c'est des choses que vous reprenez et qui conduisent à une réflexion.
Bien sûr, je les prends parce que ça devient des phénomènes globaux et un peu généralisés. Voilà, les knackis à la plage, finalement, qu'est-ce qui fait la différence entre deux paires de jambes bronzées au bord d'une piscine ou d'une plage ? Rien. Et je pense qu'il y a une forme de mal-être aussi, parce que souvent on parle de, oui, c'est le culte de soi, c'est le narcissisme. Je pense que c'est l'inverse. Je pense qu'il y a un gros malaise et qu'on a besoin d'être quelque chose ou quelqu'un, d'être reconnu pour ça. Et donc, on crée des phénomènes de masse comme ça par rapport à un malaise. Le tiens-toi à Clichy, Clichy pourquoi ? Parce que c'est dur de vivre à Clichy et que souvent, on préfère la plage et la montagne en Corse. Mais qu'est-ce que ça cache comme réalité ? Ça cache que la Corse ou Clichy, bientôt, c'est le même combat. Et on continue quand même à se créer des phénomènes comme ça illusoires, un peu comme pour notre histoire. On invente des symboles, des mythes fondateurs pour au final découvrir que rien n'est vrai et que derrière, il y a une réalité qui est plus dure. Et tant qu'on ne regardera pas cette réalité en face, ça va aller de mal en pire parce qu'on va continuer à se nourrir de fantasmes. Et qui quand passe pérenne ou mourrait, on finira par cette phrase.
On a tous compris.
Voilà, merci. Désolé,
le 4 novembre 2016, je vous lis, nous sortons de la célébration de nos morts, les ventres pleins de salviates et de repas familiaux qui s'apparentent à des banquets de troupes. Les nuits se font plus longues ou les jours plus courts, faites votre choix. Nous allons nous diriger vers décembre. Les réflexions intenses autour des cadeaux, des feux de cheminée, les mains repliées sous un plaid, les épaules couvertes. Les débats sur les crèches vont réapparaître, les engueulades molles et bourgeoises sur les décorations des villes pour les fêtes. Le PIB du Burkina Faso sera englouti dans des cadeaux, apéros, bistrots, eau chaude, entre poteaux. Les yeux des enfants vont s'illuminer au-dessus de leurs joues rougies, sous leurs bonnets, à l'idée de ce que le grand barbu du pôle Nord pourra déverser comme présent au pied du sapin. C'est aussi une bonne chose, je ne suis pas là pour prêcher mon adézoom mais en permanence, mais par terre, à ras du sol, des hommes, des femmes, parfois des enfants. Faisons un beau cadeau à nos enfants, celui de pouvoir s'émerveiller en regardant vers le haut et de pouvoir être touché en regardant vers le bas. Le regard droit n'en sera que plus humain et plus sûr. Je n'aime pas la variété. Je n'aime pas les chanteurs faciles, mais cette voix et ce texte m'ont touché profondément.
Qui peut concurrencer MAF Pro ? Pour mes locaux, outils chantiers, la décennale, c'est simplifié. Un seul contrat, moi qui suis pro.
MAF Pro pour le BTP, c'est l'assurance de vos locaux, matériel, chantier, responsabilité civile et décennale dans un seul et même contrat.
Moi qui suis pro, je préfère MAF Pro.
Plus d'informations sur maf.fr et dans les agences MAF.
Bonjour, c'est Stéphane Thébault. Toute l'année, je rencontre des gens qui en ont assez de se pencher pour ouvrir ou fermer leur volet battant. Saviez-vous que Bubendorf, la référence du volet roulant, vous propose aussi une motorisation solaire pour votre volet battant à 599 € pose comprise.
Prix TTC posé conseillé des trois solutions solaires achetées. Conditions intégrales de l'offre et installateur sur solar.bubendorf.com.
Da Zonza Santa Severa, da Abota a Alata, LTFM, Isam et Simoa.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, ne ressentez-vous?
mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute, ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, comme troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Tu vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, à peine le temps ne font que courir.
Si je m'endors, me réveillerai, vous il fait si.
C'est dur, je confesse, enfin je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire?
À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu?
Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne branche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse un mangement. Veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie, abandonner. Je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute, ne me ferme pas la porte.
Avec un homme debout, c'est un texte qui vous a ému. Alors que je lisais cet extrait. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Vous l'avez pris cette chanson en pleine
dans
figure.
Ouais. Oui, en plus, je crois que si je me souviens bien, c'était une espèce de télécrochet. Bon, je sais plus ce que c'était. Bon, enfin, pas souvent.
The Voice.
Ouais, The Voice. Ouais.
C'est vrai? Il a commencé par The Voice.
Oui.
Oh, Michael, ah bon. C'est tout, c'est le maître KPO. Oui.
Sans faire de chez les Andréa, sachez une chose, c'est qu'ils savent
tout. Ils savent tout, surtout. On pense que le type il dort déjà. Ouais.
Voilà, les mecs qui sont là en scred derrière. Mais en fait,
ouais, ils sont là.
Mais ouais, donc j'étais tombé parce que bon, moi personnellement, j'ai pas la télé. Je refuse de la voir, même si je regarde beaucoup de films. Et je suis tombé sur ça par hasard un soir.
C'est un paradoxe, lui tout seul.
Ouais, je suis éminemment paradoxal.
Mais il est comme nous tous en réalité.
Oui, bien sûr. Et je suis tombé sur. Et puis j'ai dit, attends, j'ai bien compris là. Puis je l'ai remis. J'ai regardé, j'ai dit, attends, c'est pas possible qu'un mec de The Voice, ouais, etc., il me chante un truc d'une simplicité, parce qu'on est touché par la simplicité. Si c'est complètement théâtral et baroque, il n'y a rien, enfin, on ressent rien, c'est beau, oui, il y a des
fioritures. Moi, j'ai compris aujourd'hui le texte grâce à vous.
Mais sincèrement.
Non,
je sais, Marie. Vous m'avez gagné depuis toujours, vous m'avez gagné, Marie. Et voilà, je l'ai pris en pleine tronche.
Statut particulier, Paul Tourquidourian, est publié chez Realita. J'espère qu'on verra d'autres livres avec cette maison de publication.
J'espère aussi.
Alors, ce garçon-là, qu'est-ce qu'il vous fait? Quel effet il vous fait? Est-ce qu'il s'agit du souvenir de l'adolescence? C'est quoi? On écoute.
Oh.
C'est quoi l'histoire avec...
L'histoire de Freddie Mercury, c'est une rencontre. C'est-à-dire que quand les CD commencent à être démocratisés, on m'offre 4 CD. ZZ Top. On m'offre Michael Jackson, je ne sais plus quel album. On m'offre Paul McCartney en solo. Bon, je recommande pour le cinéphile le passage dans Shaun of the Dead. Ah, il frappe sur les morts vivants avec des queues de billard au rythme de la chanson.
Ouais. Taisons-nous.
The Spy, like the tiger.
Ça, c'est une chanson qui rend heureux.
Ça, c'est une chanson qui donne envie de partir en courant au Saloucha. Ah non, Don't Stop Me Now, si ça va pas, passez Don't Stop Me Now.
C'est la chanson que j'écoute quand je vais pas bien.
Ouais, ouais. Alors, mais déjà, c'est les incroyable. Paroles, elles sont fantastiques. Bon, après, il y a bien sûr Freddie Mercury qui est absolument légendaire. Et donc, dans ces quatre CD, il y avait...
Un homme Queen, de masque, hein, pourtant.
Ouais, ouais, absolument. Un homme de masque, mais vous savez, des fois... L'artifice permet de dire la vérité. C'est un peu ce que font les comédiens et les artistes. Moi, c'est ce que j'aime, les comédiens et les artistes. C'est quand l'artifice leur permet de dire une vérité.
Vous auriez voulu être un artiste ?
J'aurais voulu être un artiste, Marie. Ouais, non, mais je suis absolument pas un artiste, c'est ça le problème. Là, ouais, moi, vous me donnez un instrument de musique, vous me demandez de chanter, ce serait plus des grenouilles.
Bon, je vous ai interrompu dans votre beau souvenir, pardon.
Ah, voilà, non, mais c'est avec plaisir. Mais et dans le tas, il y avait Wembley. Il y avait les disques, je sais s'il y en avait deux ou quatre disques de Wembley. Et là, je les ai trappés, comme on dit à Bastia, c'est-à-dire que les disques, à la fin, ils passaient plus. Ils passaient plus, voilà, il y avait tout. Moi, j'ai découvert Freddie Mercury sur Wembley. Et Queen, pour moi, c'est le truc qu'il y a dans la voiture, qu'il y avait dans le téléphone pour écouter la musique. Et ce mec-là, ben, comme vous dites, hein, qui était un virtuose de la musique classique, qui avait fait le conservatoire, etc., et qui se retrouve à faire du rock, qui est une bête de scène, qui se donne à fond, qui meurt jeune, et qui a des textes de folie, qui va à l'encontre des maisons d'édition. Bon, on l'a vu notamment dans le film.
De tout, sur la durée des morceaux.
Sur la durée des morceaux, enfin, bah, voilà, c'est un truc complètement dingue et hors norme. Et je découvre presque, entre guillemets, le rock à travers ça. Et je découvre Freddie Mercury, il ne me lâchera plus jamais parce que je l'ai aimé. J'ai aimé Freddie Mercury comme on aime ses amis. Alors que, bien évidemment, je ne l'ai jamais connu, malheureusement.
Comme je vous comprends.
Voilà.
Accueillons Thomas Bronzini. Bonsoir, Thomas.
Bonsoir à vous. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, Thomas.
Oh, Michael, il a fait comme un petit signe de tête comme ça. Mais non. Oui. Michael, vous avez interdiction de jouer ce soir. Là, je vous le dis.
Pourquoi ?
Entendu.
Allez, Thomas nous fait jouer avec son mash-up. Nous prenons la musique d'une chanson. Enfin, c'est lui qui le fait. Les paroles d'une autre chanson, il les mélange, il faut trouver les deux chansons.
C'est le boggle musical.
Voilà.
Michael, vous pouvez jouer évidemment, parce que si vous ne jouez pas, personne ne
trouve. On a un très bon client ce soir quand même en face. Hein. Je vous le dis.
Bah, 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 bah.
Attention, parce que tenez-vous, parce qu'il y aura un peu de tout.
Oh, malou.
Il y avait un accent là, non ?
Il faut trouver quoi, les...
Tenez-vous.
Julio Iglesias.
Oui. Vous êtes prêts ?
Oui.
C'est parti.
Moi, je n'étais rien. Et voilà qu'aujourd'hui,
j'en ai un.
Moi c'est Francis Cabrel.
Je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire.
Ouais, chapeau.
Ah, je pouvais pas trouver
allez,
ça.
N'importe quoi.
Non, vous pouvez trouver.
Enfin, c'était l'hymne de l'OM, je ne peux pas.
Vous trouvez Francis ? Vous trouvez Francis ?
Je trouve Francis. Bon, j'ai aucun mérite parce que j'ai une fan dans l'entourage.
Mais oui, alors un point pour Paul Turquidoriani et un point pour Théo.
Théo, tu as trouvé ?
Et c'est lui qui a trouvé la musique et qui me l'a dit dans l'oreille, c'est pas moi. Allez, Théo, un point qui réalise cette émission.
Très, très bon. C'est bon ?
Oh, c'est bon pour le moral.
Messaggero di storia, quando tu di un di
savone.
La musique.
All'orizzonte, ascolta l'umarone. Senterai qualche voce disturbato destimone.
Oh no no no. Je ne le pourrai point.
Et l'amour dans ton midieri, tout y dit, c'est pour l'ugare.
Quand on
va te l'us brancadou.
Vous avez trouvé
les paroles, ouais.
Les paroles.
Mais vivre sans amour.
Oui. Donc là, il faut que vous vous associez.
Allez, on ne le pourrait point.
Association de malfaiteurs.
Donc les paroles.
Les paroles quant à encourir la misérigo.
Tout à fait, c'est
donc
bien
ça. Donc ça fait deux points, Théo un point et Marie.
Et Marie.
Ce sont les paroles de la chanson
La tendresse.
La tendresse.
Ou la tendresse.
De Bourvil.
Ouais.
Tout à fait. Vous êtes prêts ?
Donc zéro point, puisque je n'avais pas. Donc deux.
Alors,
attendez. Deux points Paul Tourquidouriane.
Oh, merci Marie.
Un point, Théo le réalisateur.
Merci Théo.
Michael, tu es dans les choux.
Ça va trop vite. Ah,
Michael, celle-là, elle est pour toi.
Ça va trop vite.
Dans un pays de tous les temps, il est plus belle des... que l'on ait vu depuis longtemps.
C'est Johnny Hallyday déjà.
Non. Non,
s'envoler que... non, à travers
il
le
est
ciel.
Horrible parce qu'il fait des imitations qui n'ont rien à voir.
Cette petite porte le nom de...
Et toujours rien pour l'oreille d'Ali.
Petit oui, mais expiègle. Ah oui,
qu'est-ce qu'il expiègle.
Venez donc découvrir la malicieuse Maya.
La belle.
Petite oui, mais...
Ah, c'est Maya la belle, jolie.
Oh, basta.
J'ai fini par le dire.
Là, ça va trop loin pour moi.
Il a dit.
Je crois qu'on va saisir le sens.
On lui accorde le...
Je sais pas.
Non, est-ce qu'on lui accorde, on lui accorde le point de Johnny aussi.
Si vous voulez.
Mais c'est quoi la chanson?
C'est le fou solitaire, je sais plus. Il avait chanté avec la
Requiem pour un fou.
Le fou solitaire. Eh ben mon grand,
en Santiago,
vous obtenez 4 points et vous êtes êtes le champion des invités.
Le champion des invités.
On n'a pas une musique, un truc dont Stop Mina là qui partirait. Si on est un peu rapide, Théo, et si on bisque pas de pas avoir gagné ce soir.
Voilà. Merci.
Bravo.
Je remercie mon producteur, je remercie les réalisateurs qui m'ont permis
d'être là ce soir.
Ouais.
Paul Tourquidouriane, vous signez statut particulier chez Realita. J'ai adoré ce livre.
Merci,
je le fais pas par un
monsieur
la radio. Parce que j'avais un a priori hyper négatif et je vous l'avais dit. Et franchement, vous m'avez cueilli un peu comme les paroles de Claudio Capeo dans votre face à la Noël. Ça m'a fait le même effet.
Merci.
Donc je vous remercie pour ce livre. On ne sait pas encore quand vous le dédicacerez, mais en tout cas, on annoncera à la radio dès que vous le
voilà,
savez.
Je pense que ça fera au mois de novembre. Au mois de novembre, ça se fera.
Ça se fera au mois de novembre,
ouais.
Très bien.
Ouais.
Et ce samedi, vous serez aux côtés d'Antoine Albertini.
Oui, le fameux Antoine Albertini, pour une présentation dédicace de son bouquin Malamorte à la bibliothèque municipale de Bastia.
Bon, Thomas ne peut pas chanter, donc c'est ça que vous êtes en train de me dire, il y a trop de pubs. Mais on n'en peut plus. C'est des pubs importantes.
Je ne viendrai plus.
Vous avez trop changé.
Alors, au moins le début, parce que cette chanson, elle est vraiment pour lui. Vous l'avez travaillée pour lui. Paul, au revoir.
Quand
merci beaucoup.
Bonne soirée, Marie. Qu'ils sortent beaucoup de l'œuf, du cocon.
Oh.
Tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons. Tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Mais le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses. Qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con, la dernière averse.